Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Quelle est la présence des femmes dans le monde des affaires en Afrique du Nord et comment évoluent les entreprises gérées par la junte féminine dans la région? Ces questions ont été épluchées dans un rapport produit par le Bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord et l'Oxford Economics Africa. Vous aurez les détails dans votre rubrique Zoom Express. Plus de 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi prochain en République démocratique du Congo. Il s'agit d'élections générales dont la présidentielle attire particulièrement l'attention. L'occasion de s'interroger sur le bilan économique du président et candidat Félix Tshisekedi. Notre invité Eric Niundu, porte-parole du candidat Tshisekedi et directeur de la cellule de communication du chef de l'État congolais, viendra défendre son bilan. Il nous parlera aussi des opportunités d'investissement et de développement des relations économiques entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer ces titres, allons faire un tour au 9e salon de l'architecture et du bâtiment qui se tient actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plus de 30 000 personnes y sont attendues et les discussions tournent autour de l'architecture durable et des industries locales. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, a fait un tour au salon. Écoutons son reportage.
Plus de 150 entreprises participent à cet important rendez-vous et expose toutes dans le hall 1 d'une superficie de 7000 m². Quelques 30 000 visiteurs sont également attendus durant ces 5 jours. Prenant la parole à l'ouverture de cette importante rencontre, Joseph Hamon, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, a précisé que cette édition de l'Archibat s'inscrit dans un processus visant à engager les architectes ivoiriens, mais aussi ceux de l'espace ouest-africain, dans une architecture durable en associant les industriels locaux. Joseph Hamon.
En adoptant l'architecture durable comme moyen de relever les problèmes environnementaux, de promouvoir la résilience climatique et de créer un avenir plus vert et plus durable, nous, architectes ivoiriens et ouest-africains, reconnaissons le besoin urgent de relever les défis environnementaux et de promouvoir le développement durable tel qu'édité par les Nations Unies.
Plus de la moitié de la population ivoirienne vit en ville et cela nécessite la création d'un écosystème durable et une planification de l'espace urbain, intégrant notamment les nouvelles technologies de la communication et une gestion efficiente du foncier. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a profité de cette activité pour revenir sur les dispositions à prendre pour éviter d'exposer le cadre de vie au danger. Bruno Dabanyekone.
Il s'agit notamment de la loi instituant le Code de l'urbanisme du foncier urbain, qui a pour objectif d'organiser, de réglementer les matières relevant de la planification urbaine et de l'accès à la propriété foncière. Il s'agit du décret du 13 mars 2019 instituant un système de référence terrestre, un système de référence altimétrique et un système de représentation plane, un référentiel géodésique unique, donc à la disposition de l'ensemble des acteurs de notre secteur.
En Côte d'Ivoire, le déficit en logement s'élève à 833 000 unités. C'est une opportunité pour le secteur en termes de business, mais aussi d'utilisation de nouveaux matériaux de construction écologique et résilients face au changement climatique. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Mehdi 1.
Zoom Express.
Je vous le disais dans les titres, un rapport produit par le Bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Oxford Economics Africa s'est intéressé à la présence des femmes dans le monde des affaires en Afrique du Nord et surtout comment évoluent les entreprises gérées par la junte féminine dans la région. Nous en parlons avec François Conradi, l'économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Bonjour à vous François Conradi et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar.
Tout d'abord, quelles sont les principales conclusions de ce rapport ?
Alors, dans ce rapport, nous nous sommes penchés sur des chiffres de la Banque mondiale qui, d'une, nous disent quelque chose sur la différence entre les petites et moyennes entreprises gérées par les femmes qui ont une participation capitalistique et celles où ce n'est pas le cas. Donc, cela permet de dire que lorsque une femme est présente dans le capital d'une PME, cette entreprise emploie d'une plus de personnes que lorsque ce n'est pas le cas, et de deux, emploie plus de femmes. Donc, sur la base de ça, et en combinant cela avec des chiffres de chômage dans la région de l'Afrique du Nord, chômage qui est d'une, enfin, le chômage est élevé, et aussi la participation dans le monde du travail est bas. Cela a permis de conclure que ça doit être une priorité pour les dirigeants des gouvernements en Afrique du Nord d'encourager et de trouver des moyens de pousser des femmes à devenir plus représentées, mieux représentées dans les PME.
Mmh. Donc, encourager la présence féminine au niveau donc, de la direction ou du capital de ces PME. Alors, l'autre question, c'est comment évoluent ces PME gérées par les femmes ? Sont-elles mieux gérées ? Sont-elles plus dynamiques, plus compétitives ? Qu'avez-vous observé, François Conradi ?
Alors, les données sont mitigées. Donc, en général, si on prend l'univers de toutes les PME au monde, il en ressort qu'en général, les gens qui évoluent dedans, les femmes sont moins bonnes les PME gérées par les femmes ont plus de difficultés à faire évoluer les ventes rapidement que les PME dirigées par les hommes. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les régions. Donc, par exemple, il y a eu une étude au Cameroun et une autre de l'Afrique du Sud qui a montré le contraire. Mais c'est en partie pour ça que nous disons que il faut aussi penser au différentiel de chômage entre les hommes et les femmes, qui est particulièrement prononcé en Afrique du Nord, plus que dans les autres régions du monde, parce que c'est en travaillant pour quelqu'un d'autre que l'on apprend comment fonctionne une affaire, comment vendre, comment faire ses comptes, comment parler à des fournisseurs, etc. Ce qui veut dire qu'un taux élevé de chômage pour les femmes implique aussi que les femmes de ce pays en général n'apprennent pas les compétences nécessaires à fonder leur propre PME. Donc, ce sont deux problèmes à regarder en même temps.
Mmh. Ce sont donc des problèmes à gérer. Alors, quelles sont les recommandations de ce rapport qui, je le rappelle, donc, est établi en partenariat avec le bureau donc, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord. Quelles en sont les recommandations principales, François Conradi ?
Donc, en parlant des PME de manière générale, sans parler de genre, nous recommandons que les gouvernements trouvent des moyens pour faciliter les procédures administratives pour les PME, donc obtenir une licence et s'enregistrer pour payer les impôts, etc. Après, pour ce qui est du genre, il faut que des programmes, parce que dans tous les gouvernements de la région ont quelque part dans les programmes, ça parle de genre, mais ce n'est pas jumelé avec ce qui se passe sur la gestion des PME. Et c'est là vraiment que nous voulons mettre l'emphase dessus, c'est dans les PME qu'il faut encourager la participation féminine. Donc, nous voulons que les politiques PME et les politiques genre soient combinées de manière plus efficace. Mmh. Et aussi dans le privé, nous encourageons les banques et les sociétés de financement, d'investissement, à entreprendre ce qu'on appelle en anglais un « gender lens approach ». Donc, c'est de regarder les investissements à travers la lentille du genre et de prioriser des investissements qui pourraient encourager ou promouvoir la participation féminine dans les PME.
Prioriser donc les investissements qui pourraient encourager la participation féminine dans les PME. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa, qui, en partenariat avec le bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord, a préparé et vient de sortir un rapport sur la présence féminine dans les entreprises, notamment les PME, et l'approche genre dans les entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation, François.
Merci, Omar. À bientôt.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Eric Nindou. Il est le porte-parole du président candidat Félix Tshisekedi, qui donc se représente pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, des élections qui doivent avoir lieu mercredi prochain. Eric Nindou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Omar, bonjour et bonjour aux auditeurs de Média en Radio.
Alors, les élections, donc, je le disais, c'est dans quelques jours, sauf report, bien évidemment. Et là, on s'interroge, quel est le bilan économique du président Félix Tshisekedi après un mandat à la tête donc, de ce vaste pays du continent?
Le bilan économique de Tshisekedi, c'est un bon bilan. Pourquoi? Parce que le président, quand il arrive au pouvoir en 2019, il trouve un pays qui est en très mauvaise posture, un pays qui, comme on le dit, c'est un scandale géologique. Un scandale, pourquoi? Parce que le Congo détient énormément de richesses, notamment des richesses minières. Premier producteur mondial de cobalt, premier producteur mondial de cuivre, il y a du lithium, il y a du manganèse, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle des métaux stratégiques ou critiques, parce que l'industrie mondiale en a besoin, notamment pour la transition énergétique, la production de batteries pour les véhicules électriques. Et donc, il trouve cette situation, et malheureusement, le Congo est un pays pauvre. Pourquoi? Parce que nous avons une économie dont la structure est extravertie. Nous exploitons les minerais, mais nous les exportons sans avoir fait même le minimum de processus de transformation et pour pouvoir ajouter la plus-value. Le président Tshisekedi s'attaque à ça. La première chose qu'il fait, c'est qu'il applique le code minier qui justement exige qu'il y ait au moins un début de transformation.
Une transformation locale.
Voilà, donc il le fait. Il y a d'ailleurs une usine STL qui vient de s'ouvrir dans le Katanga, justement, dans le Lualaba, qui aujourd'hui va produire notamment des dérivés du cobalt qui pourront déjà être utilisés par l'industrie. Voilà, c'est une usine que l'on va construire avec l'aide des Chinois, par exemple. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait. Autre chose que le président Tshisekedi a lancé, c'est l'idée de dire la revanche du sol sur le sous-sol. Parce que le Congo est connu historiquement comme un pays minier, mais pourtant, c'est un pays qui devrait être une puissance agricole. Regardez le Maroc, où nous nous trouvons. Un pays qui a un stress hydrique. Et pourtant, le Maroc est exportateur net de fruits et légumes. Et le Congo, pour l'instant, n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Nous importons de façon nette tout ce qui nourrit Kinshasa est importé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des routes de desserte agricole. C'est-à-dire les choses qui sont produites à l'intérieur du pays ne sont pas acheminées vers Kinshasa, vers les grands centres de consommation. Donc c'est ça que le président Tshisekedi a commencé à inverser. Il a réhabilité déjà 5000 km de routes, notamment des routes de desserte agricole. Il les a réhabilitées, bitumées, asphaltées ou entretenues quand c'est des routes en terre, pour qu'on puisse acheminer des centres de production vers les lieux de consommation. Donc il veut changer la structure de l'économie. D'un côté, mettre en place des usines de transformation pour créer de l'emploi, de la manufacture. De l'autre côté, diversifier notre économie, donc qu'elle soit moins dépendante des mines et qu'elle devienne un peu plus une économie agricole. Dernier volet, il a beaucoup travaillé sur la compétitivité parce que c'est le premier président qui a mis près de lui une cellule du climat des affaires. Et notamment, résultat, le Congo a été classé par Moody's et par Standard & Poor's en 2022 et 2023 BB+, c'est-à-dire option, si on peut dire, une évaluation d'une économie qui est en bonne forme avec une perspective favorable. Mais on vient de très loin et c'est déjà un grand succès.
En tout cas, on verra si les électeurs feront le même bilan pour le président Félix Tshisekedi. Alors, quand vous dites parler de ces réformes-là, il y a une aussi qui s'impose dans beaucoup de pays du continent, c'est la structuration de l'économie. C'est-à-dire avoir en même temps aussi un secteur privé dynamique qui comprend les enjeux. Sur ce plan-là, qu'en est-il actuellement en République démocratique du Congo?
Nous sommes justement dans un pays où l'État est le premier employeur du pays, ce qui est une aberration. Parce que dans un pays comme le Congo, où il y a un potentiel immense, notamment dans les infrastructures, dans les services, dans la production comme telle, il faudrait que le secteur privé prenne sa part. Malheureusement, c'était ça, la compétitivité n'était pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il y avait trop de taxes, il y avait trop de corruption aussi, il faut le dire. Et le président a mis en chantier tout un tas de réformes qui ont permis notamment de lutter contre la corruption. Exemple pour ça, preuve de ça, c'est que le budget est passé de 2019 à 2023 de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Il a été quadruplé. Pourquoi il a été quadruplé? Pas par magie, c'est tout simplement parce que la lutte contre la corruption a fait que tout l'argent qui était perçu, par exemple, au niveau des douanes, au niveau des régies fiscales, maintenant va vers les caisses de l'État. Avec un budget de 16 milliards, ce n'est pas encore suffisant pour un grand pays de 100 millions d'habitants, mais on est dans une courbe ascendante, ce qui permettra non seulement à l'État de pouvoir pourvoir à ses besoins, mais aussi d'investir. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est pour la première fois de l'histoire du Congo que nous avons atteint ce qu'on appelle la cinquième revue du cadre général de la dette avec le FMI. Ça a été fait tout récemment, au mois de septembre 2023. Ça donne, on sait bien que le FMI ne va pas aider le Congo à se développer, mais ça donne de la crédibilité au Congo. En même temps, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bonnes notations des agences internationales, je dois ajouter celle, par exemple, de l'agence Bloomfield, qui est basée en Côte d'Ivoire, une agence qui a la spécialité de noter les pays africains en monnaie locale, et elle nous a mis une cote B++, c'est-à-dire vraiment favorable. Donc, de ce point de vue-là, le Congo est sur la bonne voie, mais il faut effectivement pousser le secteur privé, et notamment, là-dessus, je termine, le président a mis en place ce qu'on appelle le FOGEC, c'est un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Et il a mis aussi en place ce qu'on appelle le PADMPME, le programme d'aide au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Parce que c'est ça le tissu économique. On doit créer de milliers et des milliers de petites entreprises qui vont pouvoir aider les Congolais à travailler.
Alors, ce sera peut-être ma dernière question. C'est par rapport à l'attractivité donc, des investissements. On sait que le Maroc est un pays qui est très présent sur le continent. C'est le deuxième investisseur africain en Afrique.
Absolument.
Si vous aviez un message à lancer aux hommes d'affaires et aux investisseurs du continent, notamment ceux du Maroc, quel serait ce message-là, Eric Nindo?
Ce message-là, c'est qu'il faut venir au Congo. Il faut y venir maintenant. Parce que le pays est justement dans une courbe ascendance, dans une bonne tendance de réforme. Il y a une véritable volonté de réforme du pays pour assainir les finances publiques et pouvoir aller de l'avant, notamment dans les engagements du président pour cette élection, pour susciter, enfin, demander un second mandat aux électeurs congolais. Il dit que sa priorité des priorités sera l'emploi. 6,4 millions d'emplois à créer en 5 ans. La deuxième chose, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Et la troisième chose, pouvoir assurer la sécurité et la stabilité. On sait très bien que la base d'une économie, il faut la stabilité. Le Maroc a cette chance d'être un pays stable, qui peut faire des projets sur le long terme. Comme on dit souvent, on ne peut pas résoudre des problèmes structurels avec des mesures conjoncturelles. On est souvent soumis au court-termisme en Afrique parce que tout est urgent. Au Congo, on a une perspective avec un président qui sait où il veut amener le Congo. Il sait que le Congo se développera dans 20 ans peut-être, mais il faut le mettre sur la bonne voie. Et notamment, une dernière chose que je crois qui est très importante, c'est d'abord que le Congo, comme les autres pays africains, doit miser sur ce qu'on appelle la croissance verte, la green economy. Parce qu'on a la chance d'être les derniers dans le train de l'industrialisation, donc on peut faire ce qu'on appelle un leapfrog, un saut de grenouille en tout cas, pour passer à une nouvelle technologie. Et le président a investi là-dedans, notamment en ce qui concerne les économies vertes, l'hydroélectrique, Inga, qui est connu du monde entier,
le
barrage d'Inga, le solaire. Il y a des stations solaires qui sont en train d'être construites. Et on pourrait là-dessus imiter l'exemple du Maroc, hein, qui est un pays qui a vraiment investi dans la green economy. Et enfin, l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le dividende démographique. 100 millions d'habitants, une perspective de 200 millions d'habitants en 2050, avec près de 60% de jeunes de moins de 20 ans, il faut trouver des emplois pour ces jeunes. Et pour que notre dividende soit réellement, la démographie soit un dividende pour nous, il faut investir dans le capital humain. C'est pour ça que le président est en train de construire 5 grandes universités au Congo, ce qui n'avait jamais été fait, pour que ces jeunes soient formés et qu'on ait justement ce capital humain qui va permettre le développement du pays.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Éric Nindou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat président Félix Tshisekedi, donc à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives, presque des élections générales, donc qui se déroulent au Congo ce 20 décembre. Alors, je rappelle aussi que vous êtes le directeur de la cellule de communication du chef de l'État. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Omar, pour cette invitation et merci aux auditeurs de Média en Radio.
Merci.
Destination Écho.
Direction le Niger, où on fait un état des lieux dans plusieurs secteurs, cela 4 mois après les sanctions prononcées par la CEDEAO à l'encontre de ce pays ouest-africain. Dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, les autorités notent que les artisans font encore preuve de résilience, mais ce n'est pas le cas pour les professionnels du tourisme, notamment les hôteliers. Le point avec notre correspondant à Niamey, Jean-Djibril William.
C'est dans cette tannerie artisanale du quartier de Gamkele que la nouvelle ministre du Tourisme a entamé son périple au chevet des artisans de la capitale nigérienne. Des bijoutiers, des cordonniers, mais aussi des hôteliers, fortement touchés pour certains par un approvisionnement réduit en matières premières et pour d'autres par une clientèle qui s'est faite de plus en plus rare. En cause, un embargo prononcé par la CEDEAO à l'encontre du Niger depuis le mois d'août.
C'est des secteurs qu'il faut faire vivre pour éviter que toutes ces personnes-là se retrouvent dans la précarité. Alors la ministre a entrepris cette tournée-là pour d'abord évaluer avec les acteurs directement les impacts de ces sanctions-là sur leur activité, mais aussi les solutions qu'ils sont en train de prendre pour être résilients face à cela.
Un état des lieux, mais aussi une manière d'affirmer le soutien des nouvelles autorités au secteur du tourisme et de l'artisanat, véritable moteur de l'économie locale. Une sollicitude bienvenue pour les pensionnaires du village artisanal qui assimilent volontiers leur résilience à un acte patriotique.
Avec la situation du pays, et vraiment on a trouvé un peuple très résilient, un peuple très courageux, un peuple engagé. Et donc tout cet engagement, cette résilience aussi a besoin aussi d'avoir un peu les autorités à côté. Et c'est ce qui nous réconforte et nous donne vraiment le courage d'avancer pour atteindre l'objectif escompté par les autorités du Niger.
Un artisanat résilient malgré la crise qui ferait néanmoins pâlir d'envie le secteur hôtelier. C'est d'ailleurs dans des établissements vidés de leur clientèle habituelle qu'a pris fin la visite des autorités de tutelle.
80% de leur clientèle sont des étrangers. Beaucoup de leur clientèle ont eu à partir. Mais ils arrivent aussi à faire preuve de résilience. Ils ont mis beaucoup de leur personnel en chômage technique, mais qui sera pour un temps. Ils ont fait aussi part des soucis qu'ils ont par rapport à l'électricité, par rapport à la clientèle. Ils ont énuméré pas mal de points auxquels nous sommes sensibles.
Les autorités ont néanmoins promis des solutions, pour la plupart axées sur une coopération plus poussée avec les pays non hostiles au nouveau pouvoir en place. Parmi eux, le Mali et le Burkina Faso, qui, avec le Niger, composent désormais l'Alliance des États du Sahel.
Merci à vous, Jean-Djibril William, correspondant de Medi 1. À Niamey, au Niger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.